encore une fois. Il saisit cette rondelle à une main. En plongeant, il va la pousser vers son défenseur. La passe transversale trouve preneur. Et Harper Jacky a marqué un autre. C'est parti pour match.
Salut mesdames, messieurs, bienvenue à cet épisode numéro 13 de votre balado Bon Match. Salut Danny.
Salut Martin.
Danny, le Canadien traverse une période sombre au moment de l'enregistrement de ce 13e épisode. Ils n'ont pas connu la victoire à leurs 5 dernières parties. On va tenter d'analyser un petit peu ce qui se passe, particulièrement dans le champ défensif de l'équipe où actuellement il semble y avoir des problèmes. On va jaser également retrait de chandail. En marge de ce que les Blackhawks de Chicago ont fait plusieurs années après, retirant le chandail de Chris Chelios, qui sera le prochain à Montréal, on a une bonne idée de qui ça pourrait être. On va parler également de deux joueurs qui actuellement sont extraordinaires et qui produisent à un train d'enfer dans la Ligue nationale. Matthews et Kucherov sont-ils des exceptions ou si les prochaines années nous amèneront plus de joueurs qui pourront jouer à leur niveau. Alors d'abord, Danny, commençons par le Canadien. Une séquence de 5 défaites d'affilée au moment de l'enregistrement de cet épisode de Bon Match. Ça envoie jamais un message très positif parmi le peuple, parmi les amateurs. Les gens sont déçus. Et puis, il y en a même qui commencent à critiquer l'entraîneur Martin Saint-Louis. Mais là, prenons notre gaz égal, puis essayons de voir vraiment qu'est-ce qui fait que le Canadien perd. Il perd des matchs serrés, mais il perd.
Ouais, ben écoute, déjà leur production à 5-5, moi je demeure convaincu que le Canadien de Montréal doit être une meilleure équipe à forces égales. À un moment donné, en début de saison, tu te souviens, je te disais, ouais, ils font partie de l'élite de la Ligue nationale, ils étaient dans les 10 premiers en octobre.
En octobre, ils étaient parmi les meilleures équipes à 5-5. D'ailleurs, j'avais un peu surpris Martin Saint-Louis avec cette question-là, puis je pense qu'après les joueurs et le coach en étaient quand même bien valorisés de cette histoire-là, mais ça, on dirait que ça a cassé quelque part en décembre, c'est jamais revenu, Danny.
Oui, c'est sûr. Il y a eu une glissade. C'est sûr que des fois, les unités spéciales, même si ça compte pas dans ton 5 contre 5, ça vient donner du momentum, ça crée du rythme, t'es capable d'avoir un petit soubresaut ou même un regain d'énergie qui te permet de gagner un match en faisant basculer la rencontre. Peut-être que t'as pas marqué à 5 contre 4, mais tu vas par la suite profiter de ton momentum pour t'inscrire au tableau. Bon, il y a toutes sortes de situations, c'est jamais pareil le hockey, mais moi je suis un fervent défenseur du jeu à forces égales. Parce que d'après moi, si t'es bon à 5 contre 5, tu vas être bon à 5 contre 4.
Ben oui,
mais il faut produire.
Puis c'est là que ça joue la plupart du temps, Danny, parce que, quand les matchs sont sur la ligne, on le sait, l'arbitrage est un peu plus permissif, alors souvent, tu vas défendre ou tu vas attaquer ultimement en fin de match, en fin de période, à 5 contre 5, à part quelques rares exceptions. Mais, Danny, moi, je veux revenir il y a environ un mois, à peu près. Il y avait la pause du match des Étoiles. Nick Suzuki est allé au match des Étoiles. Il avait commencé à jouer très bien, Suzuki, disons, entre la période du début de l'année 2024 jusqu'à la pause. Mais après la pause, après sa participation au match des Étoiles, il a comme pris un autre niveau. Son trio a pris un autre niveau. Mais à un moment donné, Monahan est parti. Puis quand Monahan est parti, on s'est dit, il va avoir des conséquences. Ça va venir frapper le club. Ça va frapper la profondeur du club. Ça s'est pas senti, ça s'est pas vécu dans les 4-5 matchs qui ont suivi le départ de Monahan. Mais là, on dirait qu'on l'a d'en face, Danny. Après le premier trio, comme j'ai expliqué, qui va très bien avec Nick Suzuki, il se passe plus rien depuis que Monahan est parti.
Mais non, mais c'est sûr que ta profondeur est affectée. Ça n'a pas juste un impact sur ta production offensive, ça a un impact également sur la qualité du jeu dans l'ensemble, parce que l'équipe qui, actuellement, essaie beaucoup plus de rattraper l'adversaire, tu sais, c'est un cause à effet. Bon, pour revenir, je veux juste mettre quelques éléments en perspective avant qu'on continue, Martin.
Oui.
La première chose, c'est que... avant le match contre les Penguins de Pittsburgh, 60% de la production offensive du Canadien provenait du premier trio.
C'est formidable, mais c'est bien trop.
Et c'est en plein ça. c'est formidable, mais c'est trop. C'est ça, c'est exactement ça, Martin, c'est bien dit. Puis, et je te disais que Nick Suzuki avait un pourcentage d'efficacité au niveau des tirs-buts qui était tout près de 30%. Voyons, ça n'a pas de bon sens. L'entraîneur le savait. Il a joué un peu avec ses trios. Mais force est d'admettre que... regarde, c'est une statistique très grossière, là, mais presque 8 fois sur 10, admettons 75% du temps, l'équipe qui gagne le match au pointage à 5 contre 5 gagne le match.
Ça, c'est dans la Ligue nationale, selon
dans la Ligue
nationale,
ce que j'ai répertorié depuis le début de l'année.
Alors, si tu veux être bon, à 75% des équipes, Danny, là, si tu veux être bon, comme tu disais tout à l'heure, il faut qu'à 5 contre 5, ton match soit à point.
Exactement. Puis ça, ça se répercute toujours sur les performances des gardiens de but. Quand le jeu est serré à 5 contre 5, tes gardiens sont meilleurs parce que tu défends mieux, parce que tu travailles mieux en unité de 5. On n'a pas vu ça dans les derniers matchs. Mm-hmm. On a vu des performances correctes. Moi, je pense que la seule performance digne de mention où tu peux dire, écoute, le Canadien a perdu... mais aurait mérité un meilleur sort, c'est contre les Sabres de Buffalo.
Oui.
Parce que le Canadien, c'est des erreurs d'exécution, c'était pas des erreurs de jeu défensif, c'était lorsqu'il y avait la rondelle qui ont fait des erreurs qui leur ont coûté le match. Et ils avaient gagné, ironiquement, le match à 5 contre 5. Ils avaient gagné 2-1 ce match-là à 5 contre 5, mais ils ont perdu 3-2. On connaît les événements. Fait que, tu sais, moi, je dis simplement... que le Canadien doit jouer un jeu plus sobre. Mm-hmm. Tu sais, souvent, là, je te ramenais des éléments l'autre soir, en après-midi au match à Jersey, je te disais...
Pensais que tu me ramènerais le steak bledin de patate, c'est-tu ça?
Eh bien, on va y arriver.
OK.
Écoute, tu te souviens, je te dis, est-ce que tu vois les Letang puis les Carlson partir avec la rondelle, traverser la patinoire, puis faire tes paires dans la brume tellement ils sont en mouvement? On voit pas ça. Pourtant, c'est les Penguins de Pittsburgh. Les Penguins de Pittsburgh, actuellement, c'est une des bonnes équipes défensives dans l'Est. Ben, pourquoi ils jouent défensif? Ils savent, là, ils ont moins de marge de manœuvre qu'avant.
Ouais. Alors, ils marquent moins de buts.
Ils marquent moins de buts. Donc, pour le Canadien, je pense que c'est un constat qu'il faut faire. Il faut resserrer le jeu puis permettre aux gardiens d'être beaucoup plus dans l'équation puis de donner une chance de rester dans le match puis éventuellement de gagner ta part de match.
Les gens croient que Martin Saint-Louis est directement dans l'équation maintenant. Je sais pas pourquoi. Mais les gens croient que Saint-Louis est dans l'équation. Qu'est-ce que tu en penses?
Ben, je pense qu'il y a une question de perception parce que Martin va souvent protéger ses joueurs parce qu'il sait très bien qu'il n'y a pas une grande équipe sous la main. Là. Il ne peut quand même pas sortir publiquement et dire « Écoute, on n'a pas de profondeur, on n'a pas de ci, on n'a pas assez d'expérience là. »
Il manque un trio et demi dans l'équipe, Danny, puis il manque peut-être là, deux défenseurs solides actuellement.
Oui. Oui, moi je te rejoins, 100%. Donc, tu sais, après ça, bon, là, il y a la question des trois gardiens qui revient constamment. Il y a beaucoup d'éléments, là, qui titillent les partisans parce que l'équipe gagne pas. Si l'équipe gagnait, on parlerait pas de ça. Donc, tu sais, on est... Mais l'entraîneur est souvent en train de revenir sur des éléments. On prend ce que le match nous donne, on fait ci, on fait ça.
Ouais.
Bon, ben peut-être que le personnel qu'il a sous la main est moins en mesure de répondre à ce genre de plan-là ou d'approche. Tu sais, la seule chose pour moi qui m'interpelle, c'est que je vois autant en attaque qu'en défense, je vois des choses qui reviennent constamment.
Oui.
Puis normalement, à ce temps-ci de l'année, on devrait être capable de passer à une autre étape. Et cette autre étape-là, c'est toutes les initiatives, tu sais, de particulièrement avec la rondelle, je trouve.
Ouais.
Beaucoup d'initiatives qui mènent nulle part, qui sont très à risque. Dans des contextes souvent où le match n'est même pas en jeu encore. On est à égalité, on est en plein milieu de la rencontre. Je vois deux défenseurs rendus pratiquement à la ligne des buts de l'autre côté, je me dis. Ou deux défenseurs qui défendent, qui sont complètement le long de la rampe. Tu sais, je veux dire, à un moment donné, là, ce qu'on appelle de l'équilibre sur la patinoire, l'entraîneur dit on est connecté, d'être connecté. Bon, il y a un équilibre à avoir sur la patinoire. Tu peux pas avoir 5 gars sur une demi-glace. Tu peux l'avoir sur 2/3 de glace, mais pas sur une demi-glace. On voit ça très souvent, peut-être trop souvent.
Mais à quelque part, Danny, quand on parle du manque de ressources de cette équipe-là, quand t'as pas de ressources, c'est difficile de bien exécuter. Il y a peut-être des joueurs qui, en voulant être créatifs, mais n'ayant pas les outils pour l'être vraiment, essaient d'aider l'équipe, mais au contraire, ils nuisent à l'équipe en essayant d'être créatifs, alors qu'ils n'ont pas les moyens techniques, ils ont pas le talent pour faire ça.
Oui, tu sais, c'est là où la marotte entre en ligne de compte, le steak, blé, d'une patate.
Ben oui.
Ben oui. Non, mais moi, ça dépend
là,
des...
Comprenez-moi bien. Moi, je veux pas manquer de respect à personne, Danny. Quand tu joues dans la Ligue nationale, tu fais partie des 700 quelques meilleurs au monde, là. Mais c'est clair qu'ils sont pas tous égaux dans les équipes, parce que sans ça, ça coûterait 200 millions la masse salariale, pas 85. Mais vas-y, je te laisse continuer.
Ouais, non, mais écoute, je pense que le point est très à propos. On veut pas manquer de respect à personne, mais il reste que quand tu regardes ton équipe, moi je suis de la philosophie que on essaie d'en faire pas beaucoup, mais de bien le faire avant de commencer à augmenter. OK? Puis pourquoi je dis ça, c'est que d'après moi, tu ne peux pas bâtir de succès si tu n'as pas de stabilité. Mm-hmm. La stabilité de ton jeu dans la performance. Puis là, je parle pas de stabilité au niveau du personnel, on le sait. Ils n'en ont pas eu de l'année. Puis c'est un facteur déterminant dans la qualité du jeu de l'équipe. Ça, je peux pas... Jamais je vais aller contre ça. Mais la qualité du jeu en termes de stabilité dans le jeu, de revoir les mêmes patrons, de revoir les mêmes choses, match après match après match, ça, c'est ce qui te permet de bâtir la première couche, la fondation, qui va ensuite t'amener vers un petit peu plus. Là, j'ai pas l'impression que cette fondation-là est très solide.
Puis là, de l'instabilité, il va en avoir. Il va en avoir parce que il va avoir au moins un départ, peut-être avant la date limite des échanges, le 8 mars. Il pourrait avoir deux départs, peut-être trois départs, dépendamment du marché. Et en plus, Danny, au moment où nous enregistrons cet épisode numéro 13 de Bon Match, le Rocket de Laval est loin d'être assuré d'entrer en série. Le week-end dernier, ils avaient une bonne opportunité qu'ils ont malheureusement laissé filer. Alors là, ils sont en retard sur une situation qui va devenir de plus en plus périlleuse pour eux, à savoir s'ils font les séries ou pas. Pourquoi je parle du Rocket dans l'équation? C'est que si on est à la veille de perdre des joueurs sur le marché des transactions, des vétérans, à commencer peut-être par Allen, puis peut-être d'autres, sait-on jamais, là, ben, il va falloir les remplacer, ces joueurs-là. Mais en même temps, si le Rocket de Laval est pas capable, dans les prochains jours, avant que le directeur général bouge pour la date limite des échanges, là, il va se poser la question suivante. Est-ce que les jeunes, ceux qu'on identifie comme étant des potentiels candidats pour l'an prochain, on les amène-tu tout de suite? Ou si, au contraire, on les laisse dans la Ligue américaine. C'est l'équation qui va venir probablement sur la table. Puis là, ben, écoute, je t'annonce que l'instabilité va être plus que jamais au rendez-vous, là.
Ben oui. Mais c'est pour ça que je pense sincèrement que l'approche doit être vraiment très cadrée, très simple, pour permettre au maximum de joueurs d'y adhérer dans un court laps de temps, parce que d'ici la fin de l'année, c'est important pour la culture de l'organisation de pas se laisser glisser, de pas trop perdre de matchs. Alors, tu sais, là-dedans, ça devient presque un combat philosophique. Ouais. C'est une confrontation entre des philosophies, puis moi, je suis pas dans les réunions, je sais pas ce qu'ils se disent. Puis honnêtement, c'est sûr que si j'avais cette information-là, peut-être que mon discours changerait, mais a priori, là...
On voit quand même des choses, Danny, évidentes.
Ben oui, c'est
sûr. Puis on est capable de voir où ils veulent aller. Mais tu sais, je pense que... Moi, je vais te dire une chose. Dans les derniers matchs, dans les cinq dernières défaites, pour moi, il y en a peut-être une où ça a été vraiment problématique. Mais pour les quatre autres, incluant la dernière en liste, celle contre les Devils, je suis pas prêt à dire que le Canadien travaille bien, mais le Canadien travaille. Puis, oui, puis ça, fort. C'est le genre de choses qu'il faut continuer de cultiver. Mais quand les résultats sont pas là, les gens perdent confiance. Mm-hmm. Puis souvent là, c'est sûr que les amateurs sont là pour être passionnés, sont là pour aimer le club, puis des soirs le détester, mais souvent l'aimer. Puis c'est la passion. Puis ça, c'est très correct. Il faut que ce soit comme ça. Mais dans la tête des gens, quand l'équipe perd, ils travaillent pas, Danny. Moi, c'est pas ce que je vois dans les descriptions, puis dans le travail qu'on fait ensemble. Là,
non.
Il y a pas personne qui s'en fiche chez le Canadien. Alors, mais il y a une dualité entre ce que les gens aimeraient voir puis la réalité.
Ah ben oui, mais tu sais, souvent ce que les gens, puis ça c'est l'espèce de piège du résultat. C'est que si tu focuses seulement sur le résultat, puis après tu commences à aller découper ce qui se passe à l'intérieur. Des fois, tu manques des choses importantes. Ouais. Parce que la performance, c'est plus important que le résultat. La performance, c'est ce qui te permet de dire on est à la bonne place dans notre façon de se comporter ou on n'est pas à la bonne place dans notre façon de se comporter. Contre les Pingouins, on n'était pas à la bonne place dans la façon de se comporter. Par contre, dans les autres matchs, de façon générale, quand l'adversaire est au coude à coude avec le Canadien, en termes de puissance, là, parce que j'élimine les Rangers, et les Rangers ont passé sur le corps du Canadien, puis c'est même pas dans l'équation. Mais les autres matchs, là, vraiment, j'ai trouvé que le Canadien, outre la performance, comme je te disais, contre les Pingouins, je trouve que le Canadien, comme tu l'as mentionné, t'as raison, ils sont au rendez-vous, ils bagarrent, etc., etc. Maintenant...
Puis j'ai pas des lunettes roses, je pense pas.
Non.
On a quand même vu quelques matchs de hockey dans notre vie là. Puis c'est facile à voir un groupe qui se traîne les savates. Mais par c'est contre ça. Là, je te devance un peu. Par contre, ce qui est décevant, en tout cas, je vais parler pour moi, ce que je trouve décevant un peu, c'est le comportement chaotique de certains vétérans. Tu sais quand Gallagher fait deux erreurs sur le même jeu. Contre les Devils, c'est un peu décevant. C'est un peu décevant parce que Gallagher, c'est pas Joshua Roy à qui on pourrait permettre justement ces erreurs-là. Puis le pire, c'est qu'il les fait pas. C'est ça qui met un petit peu de plomb dans l'aile, puis que le Canadien a pas de résultat. C'est qu'ils ont des gars, quelques vétérans, qui devraient être capables de faire un peu plus la différence, puis qu'ils arrivent pas.
Ben moi, je vais te répondre très rapidement à ça là. Ça nous ramène au problème de profondeur puis de la chaise. C'est qu'actuellement, t'as des joueurs parce que le groupe que Martin dirige, c'est un groupe très honnête. Et les gars jouent pour lui. Oui. On sent qu'il y a une complicité, on sent qu'il y a du respect, etc. Mais très souvent, les joueurs vont essayer de trop en faire.
Ouais.
Ils prennent pas les bonnes initiatives, ils sont pas outillés pour faire ça, mais là, ils voient qu'il y a un besoin. Puis c'est souvent, ça arrive souvent, Martin, parce que l'équipe tire de l'arrière. Ou l'équipe est en arrière dans le jeu. Des fois, ils tirent pas de l'arrière au cadran, mais tu vois qu'ils tirent de la patte. Là, ça fait que là, les gars essayent un petit quelque chose de plus, une petite affaire de plus, puis finalement, ça vient les hanter. Alors, puis c'est souvent des vétérans. Et c'est souvent des joueurs clés aussi. Puis ça, c'est il y a une part de normalité dans le sens où, écoute, les gars s'essayent, mais t'en as pas assez. Tu sais, si on passe, je le dis là, puis faut faire attention comment les gens vont le prendre, mais je le dis quand même, là, le Canadien est pas assez bon.
Non, c'est ça.
Ils sont pas assez bons.
Effectivement.
Donc, c'est sûr que ça provoque toutes sortes de problèmes.
Puis les chiffres des gardiens de but ont baissé, puis c'est symptomatique parce que dans les matchs où ils ont gagné, souvent, c'est parce que le gardien faisait de la magie aussi.
Oui, mais ça jouait mieux aussi. Ça jouait mieux dans le territoire, ça jouait un petit peu plus attentif en défensive. Ça prenait moins de risques avec la rondelle. On était plus dans le jeu, un petit peu plus conservateur. Puis là, je dis ça, mais il y a eu des vagues. Là. Je suis pas en train de dire que c'était ça depuis le début de l'année. Puis là, tout d'un coup, c'est plus ça. Il y a des vagues. Mais actuellement, juste pour que les gens comprennent bien, là, le jeu actuellement, il a monté d'à peu près un cran et demi. C'est-à-dire qu'au début de l'année, là, c'était tu regardais le niveau d'action du jeu, les mises en échec, tout ça. Bon, on était à peu près autour de 35-36 actions défensives. Fait que, là, on a monté 10-12 en moyenne. Fait que là, on est rendu
dans toute la ligue.
Qu'on
comprenne bien, c'est dans toute la ligue. Ça veut dire que c'est les équipes qui se battent pour entrer en série.
Exactement.
C'est les équipes qui se battent pour y rester dans le portrait des séries. sais, le niveau 3, là. 1, 2, 3, 4, à chaque saison, on est au niveau 3. Niveau 4 étant les séries.
Exactement, exactement. Puis moi, pour fermer la parenthèse là-dessus, c'est sûr que les gens peuvent regarder les gardiens exclusivement, regarder les défenseurs exclusivement. Mais moi, j'invite les gens à regarder les cinq joueurs sa patinoire, le comportement. Puis, tu sais, je te disais souvent, même au dernier match, là, pour paraphraser Jacques Martin, il en manque dans l'écran. Ils sont pas là.
Puis là, ça va être notre conclusion sur cette portion-là, Danny, sur ce sujet-là. Ouais. Le système que Martin Saint-Louis met en place, puis là, je vais dire plus qu'un système, la culture qu'il met en place, puis appuyé par ses patrons, parce que Kent Hughes a dit, on va être une équipe excitante qui va jouer offensif et qui va bouger sur la patinoire, qui va contrôler la rondelle. C'est pas facile à implanter, Danny. Non. Ça prend des bons joueurs pour exécuter ça.
Oui, ça prend des très bons joueurs avec la rondelle. Ça prend des
plus que trois. Plus que trois, quatre.
Oui, et dynamique. Puis souvent, ça commence avec ta ligne de centre parce que c'est là où tout s'amorce dans ton territoire avec un gars qui est solide en possession de rondelles puis qui est capable de générer de l'offensive. Parce qu'on a des joueurs responsables, là, mais qui ne génèrent pas d'offensive. Alors, moi, ça, c'est sûr que... puis je m'attends à du mouvement personnel. Là. Je regarde Joey, par exemple. Je regarde Joey Pearson, par exemple. Je sais qu'il peut intéresser des équipes de la façon dont il se comporte actuellement. Là.
Peut-être que c'est ce qui le motive, d'ailleurs, Danny.
C'est clair. C'est
d'intéresser des équipes.
Les gars qui voient leur fin de parcours ici avec le Canadien sont... Il en donne un petit extra, c'est sûr.
Absolument. Danny, évidemment, dans les clubs qui vont se frotter aux Canadiens au cours de la prochaine semaine, il y a les Coyotes de l'Arizona. Les Coyotes sont aussi dans une séquence sombre sur le plan des résultats. Avant d'affronter le Canadien, ils n'avaient pas connu la victoire à leurs 10 dernières sorties. 8 défaites en temps régulier et 2 en prolongation. Je ne vais pas décortiquer, Danny, avec nos auditeurs de Bon Match, le jeu qui fait les problèmes des Coyotes de l'Arizona.
Pour je pense long.
qu'on les connaît assez. On regarde ça, là, puis on les connaît assez. Une équipe là qui est 12-13 millions en dessous du plafond salarial, on comprend très bien là que c'est pas facile. Mais il reste une chose, c'est que il y a pas de projet encore concret pour garder l'équipe en Arizona. Pas de projet solide. Là, je comprends les propriétaires de l'endroit puis la direction actuelle de cette équipe-là se débattre. Ils ont vendu des billets de saison. Ils ont fait une campagne très agressive pour s'assurer que leur tout petit aréna soit au moins plein l'hiver prochain. Mais, Danny, il y a une seule équipe qui a transféré comme ça là, dans un claquement de doigts pendant une saison morte. Les Thrashers sont devenus les Jets à Winnipeg, puis ça s'est fait très rapidement. La saison a fini à Atlanta, on a fait les boîtes, puis ça a été vendu, puis parti, puis bail. Puis bon, ce sera le sujet d'un autre balado, mais on sait que c'est difficile à Winnipeg, soit dit en passant, puis eux aussi font face à des enjeux très graves. Mais Danny, il va falloir que la Ligue nationale procède à ce transfert-là. Si Salt Lake City est aussi prêt qu'on le dit, là, l'organisation là-bas est solide, club de basket, le financement, l'aréna est là, on peut organiser ça vite. Je pense qu'il faut le faire, puis il faut arrêter de niaiser une fois pour toutes avec ça.
Ben, tu sais, je pense que déjà, Martin, il y a énormément de pression qui vient de l'association des joueurs. Monsieur Walsh a été quand même assez cinglant.
Et ce qui n'était pas le cas avant, hein, souviens-toi. Non. Parce que Donald Fair voulait même pas se mêler de ça.
Non, parce qu'il y avait quand même, entre Donald Fair puis Monsieur Bettman, il y avait quand même un certain terrain d'entente.
C'est pour ça que les joueurs en voulaient plus.
Et après un certain temps, ben là, il a commencé à avoir de la grogne autour du fait qu'il y a des organisations qui tirent de la patte. Puis ça finit par coûter beaucoup d'argent aux joueurs dans le partenariat. Alors,
Je trouve que M. Marsh, il est censé, Danny. C'est pas quelqu'un, là, un enragé qui est contre la Ligue nationale puis contre l'establishment. Je trouve qu'il est censé quand il parle de ça.
Ben oui, parce qu'en bout de piste, là, tu sais, je complète là-dessus, c'est que tu peux pas avoir une organisation sérieuse de la Ligue nationale qui a même pas 5 000 personnes par match qui a même pas d'amphithéâtre, qui a même pas de projet.
Ça a aucun sens.
Tu peux pas. Mettons que tu es en phase de transition, puis c'est comme ça que ça avait été vendu.
Ouais.
Alors, il faut faire attention parce que peut-être que l'association des joueurs au départ était plus silencieuse parce que tout le monde a acheté le projet de transition, puis c'est correct. Mm-hmm. Mais après un certain temps, quand tu vois que le référendum, ça passe pas, puis là, ça sera pas attempé, puis là, ils cherchent, puis là, ils pataugent dans leur affaire, bien là, à un moment donné, là, les gens disent écoute, nous autres, là, il y a des organisations intéressées, il y a des villes intéressées, il y a des gens d'affaires sérieux, prêts à mettre beaucoup d'argent.
Oui.
Les concessions, le prix augmente, alors transférons.
Alors, ça va être à suivre. Les Coyotes, malheureusement, avaient eu un soubresaut au début de l'année. Là. Oui. On était tous bien contents pour André Tourigny. Son club était dans le portrait des séries, même au Thanksgiving américain en novembre. Il était pas là, mais il était dans le portrait. Oui. Mais là, ils sont plus là du tout. Là. C'est un peu comme le Canadien, là, la dégringolade. Malheureusement, c'est poursuivi. À Buffalo, malheureusement, il est trop tard, mais on s'est peut-être trouvé un gardien, Danny.
Oui, c'est peut-être la lumière au bout du tunnel, puis c'est pas juste l'affaire de Luukkonen, parce que même si Luukkonen, c'est le gars de confiance actuellement, il a joué 30 quelques matchs déjà, il a 16 victoires, ses chiffres sont vraiment très bons, il joue pour 913, oui. 2.48 sa moyenne de buts alloués. Au cours des 5 derniers matchs, il y a quand même 4 victoires en 5 départs. Il a joué pour en haut de 930 pour 4 des 5 matchs où il était devant le filet. Fait que c'est vraiment le gars, on voit que il se passe quelque chose, il y a un gars d'avenir, etc. Mais
ça a été long. Ça a été long, Danny, mais là, ça commence à payer avec
lui. Ben c'est souvent ça, les gardiens, Martin. Là, tu peux quand même pas dire que les gardiens, qu'on a des valeurs sûres avec les gardiens. Il y a toujours un peu de risque avec les gardiens parce qu'on le sait, c'est long avant d'arriver à échéance.
Il arrive dans la fenêtre de Samuel Montembeau, mi-vingtaine.
C'est ça, exactement. Exactement. Puis c'est un gardien quand même, un gros gabarit de 6 pieds 5 pouces, 220 livres approx. Donc, c'est un gars qui est très bon athlète, très rapide, très vif. Maintenant, pourquoi je dis que c'est pas juste l'affaire de Luukkonen, c'est que Devon Levi est dans la Ligue américaine actuellement et il est dominant.
Okay? Oui.
Il joue pour une équipe très ordinaire qui a un pourcentage de 560. Et lui, si tu regardes son pourcentage de victoire au niveau des points récoltés par nombre de matchs, il est à 625.
Sa
contribution est à 625. Actuellement, ses chiffres, c'est 2.48 de moyenne de buts alloués. C'est 928 son pourcentage d'efficacité. Je pense que Devon peut être un excellent, là, excellent deuxième dans la Ligue nationale de très haut niveau. Maintenant, est-ce qu'il est capable d'être numéro un? À cause de son gabarit, il va toujours avoir un point d'interrogation. Alors, on verra. Mais la combinaison des deux l'an prochain, là, aïe aïe, là, je pense que l'équipe peut tourner le coin. Là.
Moi, j'aime bien le modèle Vegas parce que Adam Hill est celui dont on parle le plus souvent parce que il a gagné la coupe, mais il faut pas oublier que Thompson est un gardien de but extrêmement talentueux qui est derrière les Bruins de Boston. On prouve encore une fois qu'avec une combinaison de deux gardiens solides, tu peux veiller. Il est tard. Là, il est vraiment trop tard, je le répète, pour les Sabres de Buffalo. Là, ils reviendront pas de cette mauvaise séquence. Mais quand tu as parlé de Luukkonen, ça m'amène à penser aussi à Caden Primeau. Parce que Primeau et Luukkonen ont beaucoup de points en commun sur la façon dont leur développement s'est passé et se passe encore.
Oui. Ben oui. Écoute, c'est aussi des gars qui ont passé à travers la COVID, là. Tu sais, la pandémie, ces joueurs-là, ça a été...
Ça les a ralentis.
C'était un peu problématique pour ces gars-là. Oui. Donc, c'est sûr que, tu sais, ça a chamboulé peut-être le cheminement de certains athlètes, dont les gardiens, ça, c'est sûr. Parce que déjà, si tu joues moins de matchs quand t'es gardien, avec, là, avec tout ce qui s'est passé, t'en joues encore moins. Donc, ça, c'est sûr que ça a ralenti la progression de certains de ces gars-là. Mais je te rejoins, mais écoute, tu pourrais aussi regarder la situation de Levi puis regarder celle de Primeau quand on s'arrête puis on réfléchit au cheminement plus qu'au gabarit. Arriver
tous les deux des collèges et
c'est
tout.
C'est ça.
Là.
Ouais. Et puis, tu sais, prendre un certain temps pour vraiment arriver à échéance parce que la marche est encore plus haute quand tu joues pour une moins bonne équipe. Les Sabres, c'est encore pire que le Canadien, là, de pas participer aux séries pendant 12 ans, là. Je veux dire, à un moment donné, c'est sûr qu'il y a des choses des mauvaises choses qui s'enracinent.
C'est
si tu
sûr.
Veux les arracher, les sortir de ton environnement, c'est très difficile.
C'est de l'ouvrage. Oui. C'est de l'ouvrage. Puis en guise de conclusion, Danny, c'est bien personnel comme observation, c'est que plus vite qu'on va être capable dans les prochains jours, prochaines semaines, de bâtir le duo Primo-Montembeault pour une couple d'années chez le Canadien, puis mieux ça va être. Plus vite on va être capable de mettre ça en place avant la fin de l'année, puis mieux ça va être, Danny.
Ça arrivera peut-être pas, par exemple. On sait pas.
Ouais, faut peut-être se préparer. À... Danny, on va se transporter à Chicago.
Oui.
La pire chose qui est arrivée à Chicago cette année, c'est quand Connor Bedard s'est blessé. On s'est dit, ouch, il y avait vraiment pas besoin de ça aux autres. Connor Bedard est revenu, il a gardé la tête parmi les recrues de la Ligue nationale. On sait que ça va être un joueur exceptionnel. Alors les gens de Chicago, même si leur équipe est moribonde, même si leur équipe risque encore de gagner la loterie cette année, quoi qu'ils vont avoir un peu de compétition avec les Ducks puis les Blue Jackets, là, mais l'horizon est beau à Chicago grâce à Bedard. Mais ce qu'on fait souvent, c'est que on organise des petites affaires pour rendre les soirées le fun. Puis on a voulu, 15 ans après, retirer le chandail de Chris Chelios. Ça a été une bonne idée. Puis on dirait que l'ancienne direction voulait peut-être rien savoir de ça, mais la nouvelle direction s'est dépêchée d'offrir ça aux partisans, entre autres, parce que faut que tu maintiennes un bel horizon à Chicago jusqu'à la fin. Puis c'était une bonne idée de le faire.
C'est une bonne idée pour une équipe qui est dernière, bonne dernière avec San Jose dans la Ligue nationale. Tu sais, tu cherches des éléments de fierté pour te raccrocher, parce que ce ne sera pas les résultats. Là.
Ouais.
Alors, et le Canadien a déjà fait cette opération-là par le passé. Tu te souviens, les
centaines
du Canadien. Écoute, c'était génial. Là. Tout ce qui s'est fait, ça avait été fait, c'était grandiose, c'était parfait.
Ouais.
Là. Mais à un moment donné, t'es tributaire de tes résultats. Donc là, cette année, c'est une bonne idée. C'est Chelios. Il a terminé sa carrière quand même en 2009. Là. Tu sais, ben, il se fait belle lurette. Et
ouais.
15 ans plus tard, on décide qu'on va l'honorer.
Ouais.
C'est un beau geste. Puis moi, ça m'a fait tout de suite penser à Montréal. Puis qu'est-ce
oui.
qui se passe avec le Canadien?
Oui.
Chenou, là, c'est quoi?
On est comme dans un trou au niveau des retraits de chandail, Danny, n'est-ce pas?
Ben oui.
On a réparé l'erreur du passé avec Butch Bouchard, puis un peu après, là, dans cette vague-là, dans les jeunes retraités du Canadien, on a eu la réconciliation, on a ramené Patrick Roy au Centre Bell, puis on se souvient de la cérémonie, on retire le 33. Puis après, ben c'est difficile. C'est difficile parce que passé 1993, il y a très peu de joueurs qui répondent aux critères. Puis les critères étaient tellement élevés avant avec le Canadien que pour retirer le prochain chandail, il y en a à peu près qu'un seul qui s'approche des critères. Mais comme il n'y a pas de Coupe Stanley, c'est pas tout le monde qui va être unanime avec le choix de Carey Price, n'est-ce pas?
Non, c'est sûr, mais tu sais, la première chose que le Canadien met en perspective lorsqu'elle retire un chandail comme organisation, c'est le temps de la renommée.
C'est ça.
T'sais, dans le fond, là, tu regardes l'ensemble de l'œuvre, les joueurs qui ici ont marqué l'histoire de l'organisation ont aussi marqué l'histoire de la Ligue.
Oui.
Fait que, tu sais, là, la barre est haute, là. Parce que t'en as eu des joueurs qui ont eu des belles carrières avec le Canadien.
La barre est tellement haute, Danny, que M. le maire arrive en dessous.
Oui, ça te donne-tu une idée, là? C'est un très, très bon point.
Essaie de t'imaginer, Danny, le débat qu'il va avoir autour de Carey Price. Heureusement, ça presse pas, parce que tu retires pas le chandail d'un gars qui est encore techniquement sur la liste des joueurs payés par l'équipe
non,
parce qu'il est blessé.
Ça.
Alors quoi, le Canadien a trois ans devant lui pour penser à ça? Trois bonnes années?
La fin de la saison 2025-26.
Oui.
Donc, c'est ça. Pour regarder cette situation-là, parce que là,
ouais.
le contrat de Carey va être à échéance, puis évidemment,
c'est ça.
C'est qu'il ne jouera plus. Là. Fait que, donc, à partir de ce moment-là, ça va prendre combien de temps pour qu'il soit intronisé au temple de la renommée? Puis moi, je pense qu'il va l'être, là. Il y a des gens qui, peut-être, ils seront pas d'accord avec moi. Mais je vais quand même dire pourquoi.
Okay? Oui.
Parce que il a joué pour une organisation quand même très moyenne.
Oui.
On va s'entendre là-dessus, qui a eu des soubresauts, des bons et des moins bons moments. Il n'y a pas eu Tu peux pas dire que le Canadien, c'était une puissance de la Ligue pour plusieurs années, une espèce de powerhouse.
Non.
Donc, c'est sûr que si tu le compares avec Dryden, si tu le compares avec Roy, si tu le compares avec Plante, la meilleure comparaison est avec Patrick Roy, parce que Patrick Roy n'a pas toujours eu des grandes équipes, puis il a été le gars qui a fait la différence.
Exactement. Il a gagné deux coupes avec le Canadien.
Exactement. Dans un contexte totalement différent, on va bien l'admettre aussi, là, parce que le hockey, il n'y avait pas de plafond salarial.
Ces deux équipes-là étaient formidables, Danny. On n'en parle pas assez souvent, là, mais non. Ces deux équipes-là étaient formidables.
Oui, avec une brigade défensive sensationnelle devant lui. Là. Mais voyons les chiffres quand même très rapidement, puis je veux pas endormir personne avec les chiffres, mais 361 victoires là, pour un gardien qui a joué dans une équipe comme
assez
celle-là.
Assez souvent moyenne. Hein?
Comme celle-là. c'est de loin... La performance la plus impressionnante. Après ça, c'est Plante à 200, à 314. Et évidemment, là, Roy et Dryden ont joué, ont gagné des matchs, également des grands matchs, mais ont gagné moins de matchs en saison régulière. 258 pour Dryden en 258 victoires. Là.
Ouais.
En 397 matchs, ça lui donne un pourcentage d'efficacité quand même de 650. Ça te donne une idée qu'il y avait une bonne équipe devant lui. 565 pour Plante, 524 pour Patrick et pour Carey, 507. Fait que moi, c'est le seul qui n'a pas gagné la Coupe, mais est-ce qu'on n'a pas gagné la Coupe à cause de Carey Price? Parce qu'il n'était pas assez bon, je pense pas qu'il faut regarder l'équation comme ça.
Non, parce que quand il y a eu une bonne équipe à Sochi aux Jeux olympiques, il a fait le travail.
Ouais.
Par contre, Danny, quand on va... Si on sort du cercle du Canadien, quand ce débat-là va arriver, on va le comparer à un gars de sa génération, Marc-André Fleury. Mm-hmm. Puis on va dire, mais Marc-André, lui... Il a gagné deux fois la Coupe Stanley. Et Carey Price n'a pas gagné. Marc-André a réussi à jouer 1000 matchs dans la Ligue nationale.
Ouais.
Il s'est élevé au rang de Roberto Luongo, de Martin Brodeur et de Patrick Roy qui l'a devancé au niveau des victoires. La seule comparaison qu'on pourra faire vraiment valable avec Carey Price, c'est probablement celle de Marc-André Fleury. Puis le Marc-André joue encore. On n'est pas prêt, mais on sait que Marc-André va aller au temple de la renommée dans quelques années. Mais pour le retrait de chandail, tu sais, les Pingouins vont peut-être être tentés de retirer son chandail dans quelques années quand il ira au temple de la renommée.
Mm-hmm.
On va dire que Marc-André a eu de meilleurs résultats que Price à cause justement de la qualité de l'équipe, puis du fait qu'il y a deux bagues de la coupe.
Oui, c'est sûr, mais je vais te dire, Roberto Luongo n'a pas gagné la Coupe Stanley, puis il est au temple de la renommée.
C'est vrai.
Ça va être un... Entre les deux, moi, je pense que Marc-André va entrer en avant. T'sais, si tu me demandes dans l'ordre des choses, il va entrer en avant pour ce que tu as mentionné tantôt. Mais il ne faut pas oublier non plus que les Pingouins, c'est une équipe qui a gagné trois fois la Coupe Stanley dans cette période-là.
Dans cette fenêtre-là. Dont deux où il a été là. Une qui a été très partie prenante, puis l'autre qui a été un peu moins utilisée, mais il était là pareil.
Mais oui, il était là. C'est ça. C'est comme ça qu'il faut regarder les choses. Puis, écoute, moi, dans les circonstances, c'est sûr que Marc-André, la longévité de sa carrière, les Coupes Stanley, les chiffres, etc., etc. Mais après, tout de suite après, dans ceux qui, on va le dire, dans les mal-aimés, là, moi, je prends Price, là, puis je fais une comparaison peut-être un peu boiteuse, mais je vais la faire quand même avec Marcel Dionne, tu sais.
Oui.
Je dis, c'est le genre de gars qui était juste pas à bonne place.
Ben oui, pas assez d'exposure.
Marcel Dionne, c'était l'exposure. Pour Price, c'était la qualité de son équipe. Mais dans les deux cas, c'est les Kings, c'était pas une grande équipe, c'était pas une grande organisation. Le Canadien, c'est une grande organisation de prestige. Mm. Mais est-ce que ça a été une grande équipe durant son règne?
Non. Absolument.
Pas souvent.
Absolument pas. Danny, on complète avec un dernier sujet. Il y a deux joueurs tout à fait extraordinaires cette année dans la Ligue nationale. Il y en a plus que deux, mais il y en a deux qui sortent du lot en termes de production offensive. Il y a Austin Matthews qui, on le sait, a dépassé le cap des 50 buts à l'intérieur d'à peine 53 matchs. Mm-hmm. Il a fait ça en Arizona devant 5000 personnes. Petite parenthèse sur notre sujet d'avant. Et il y a y a Kucherov qui a passé le cap des 100 points avant la marque des 60 parties jouées dans une saison. Est-ce qu'on est devant deux cas isolés ou si la prolifération du talent et de ces joueurs tant habiles qu'on a maintenant va nous amener une vague qui va amener des statistiques pour l'élite, là, mais à un autre niveau où si Kucherov et Matthews sont des cas vraiment uniques et isolés?
Bon, écoute, c'est des cas uniques. Ils sont pas isolés. Il y en a d'autres très bons, là. Je sais pas si on peut discarter les gars comme McDavid et tout ça, parce que c'est deux gars exceptionnels, mais il y en a d'autres, là. Mais Kucherov, c'est particulier cette année parce que il se retrouve dans une situation où, il est probablement jamais été utilisé autant que cette année. Il est déjà, il est à presque 22 minutes par match. L'année où il avait été le plus utilisé, c'est l'année d'avant, donc l'an passé, à 20 minutes par match. Mm-hmm. Avant ça, tu sais, c'était 20 minutes, 19 minutes. Donc, on le surcharge. On le surcharge pourquoi? Parce que eux autres aussi, là, ils ont des problèmes de profondeur.
Ben oui.
C'est quand même mieux que bien des équipes, là.
Puis ils se battent, sont dans une lutte à finir pour, avec Détroit, essayer de résister aux poussées de Pittsburgh, de Jersey et compagnie derrière.
Oui. Mais tu sais, c'est quand même tout près de 520 passes en 700 matchs. T'sais, fait que 517 en 703, là, au niveau des passes. C'est vrai que c'est un joueur exceptionnel de plus d'un point par match en moyenne, 831 points en 700 matchs. C'est sûr que c'est un gars qui est spécial. C'est sûr que lui, le temps qu'il va être dans un alignement où il va avoir assez de profondeur autour de lui, parce que c'est un grand passeur. Donc, puis c'est un marqueur naturel. Il est capable de faire les deux, là, mais quand tu regardes ça, tu te dis, OK, parfait. Lui, c'est sûr que tant qu'il va être dans ce genre d'environnement-là, il va produire ses 40 quelques passes par année, ses 35-40 passes par année. Là.
Ce qui est phénoménal, particulièrement pour Kucherov, c'est que c'est un ailier, Danny. Matthews est un joueur de centre. McDavid est un joueur de centre. McKinnon joue au centre aussi. Alors, tu sais, ce qui rend l'exploit de Kucherov comme passeur, c'est de dire que c'est fait par un ailier aussi.
Ben oui, c'est sûr. Mais ça veut dire aussi qu'il y a des très bons joueurs autour de lui. Quand t'es un passeur, là, c'est pas toi qui concrétise. Ça te prend ça autour de toi. Hey, l'an passé, là, il y a 83 passes. Il y a une saison, il y a quasiment 90 passes là, en 2018-19. Fait que c'est sûr que c'est un joueur qui a une vision du jeu qui est exceptionnelle. Mais c'est quand même un bon marqueur. Mais à titre de référence, là, il y a 314 buts en 700 matchs. Auston Matthews en 530 quelques matchs en a plus de 350.
Écoute, puis à savoir si ça va devenir une vague, c'est difficile à dire parce que, tu sais, McKinnon et McDavid, pour nommer ces deux-là, il y en a d'autres, là, mais ces deux-là particulièrement sont toujours au top de leur game, en mauvais français, là, d'une année à l'autre, ils sont solides et tout, mais ils atteignent pas ce niveau-là, du moins aussi rapidement que les deux autres. Leur équipe, vas-tu gagner, vas-tu pas gagner, ça c'est pas le débat aujourd'hui là, mais les jeunes qui arrivent, Bédard et tout ça, est-ce que Bédard va être capable de produire à un si haut niveau? Le prochain premier choix qu'on pense à Celebrini, il est bon, mais est-ce qu'il est à ce point bon? C'est difficile à savoir si on va avoir une vague, Danny, ou si ces deux-là vont rester des exceptions vraiment là.
Ben écoute, il y a moins, c'est de plus en plus difficile de marquer 50 buts. On le sait, là. On a fait l'exercice l'autre jour.
Il n'y en a rien qu'un actuellement.
Il n'y en a rien qu'un. Puis au cours des 20 dernières années, l'année où il y en a eu le plus, c'est arrivé deux fois. Puis c'est 5 marqueurs de 50 buts. Mm-hmm. Comparativement à d'autres années où il y en a eu jusqu'à 14 dans les années, dans les années 90. Et dans les années 80, il y en a eu jusqu'à 10 dans une même saison. Donc, on est complètement ailleurs. Donc, c'est sûr que les qualités de passeur deviennent prépondérantes parce que si t'es capable de marquer et t'es capable de fabriquer des jeux pour tes coéquipiers, ben ça diversifie l'attaque, ça élargit l'éventail. C'est tout ça là, qui est pris en compte. Alors, c'est super important. Mais McDavid, actuellement, là, juste peut-être pour en ajouter sur le tas, si tu me prêtes l'expression.
Oui, oui.
c'est lui qui en a le plus de passes actuellement. Il a 68 passes, puis c'est lui des trois qui a joué le moins de matchs. Il a 53 matchs, alors que Kucherov en a 59, tout comme McKinnon. Donc, ces trois gars-là, c'est les trois seuls gars qui sont dans la braquette des 60 passes actuellement depuis le début de la saison. Et parmi les trois, c'est Connor McDavid qui a joué le moins de matchs. Alors, c'est quand même très significatif aussi.
Et ce qui est intéressant, Danny, c'est que Matthews avec Toronto, Kucherov avec Tampa Bay et même McDavid avec les Oilers, même si les Oilers vont très, très bien depuis quelques semaines déjà. Mm-hmm. On parle de trois joueurs qui évoluent dans des équipes qui ne sont pas considérées à ce jour, jour d'enregistrement de notre 13e épisode de Bon Match, comme des équipes prétendantes à la Coupe cette année. Des bonnes équipes, mais on les place pas comme des favoris. Et c'est ça qui est particulier.
Ouais, absolument. Puis c'est des joueurs aussi. Tu regardes ça, tu te dis, ouais, OK. C'est des gars qui. McDavid est le plus jeune des trois à 27 ans, là. C'est des gars qui arrivent à la fin de la vingtaine. Donc, oui. c'est leur meilleure oui. période, là, jusqu'à 30, 32 ans. Là, c'est entre 27 et 32 ans. On peut dire que c'est là où les joueurs ont leur plein potentiel. Habituellement, ça commence autour de 25, là, mais vraiment, là. Mais les joueurs d'impact, on peut parler de cet âge-là.
Et comme ça arrive au moment où Ovechkin, les performances descendent, puis à 38 ans, je pense que ça commence à être un peu normal. C'est rafraîchissant que ces deux joueurs-là émergent puis nous donnent des occasions de dire « Hey, wow! » C'est le fun, ça.
Ouais, puis on voit à quel point le jeu s'est grandement amélioré parce que la qualité des gardiens, la qualité du jeu défensif, le gabarit, etc., etc., c'est devenu de plus en plus difficile de marquer des buts. Et encore, malgré tout ça, la Ligue est très, très offensive.
Danny, merci beaucoup. Ça a été un plaisir encore une fois. Je veux remercier également Pierre Gervais et Martin Plamondon qui sont toujours de très proches collaborateurs, très bons alliés pour la réalisation de ce balado Bon Match. Mesdames, messieurs, bonne semaine. Salut. Et bien sûr, je vous donne rendez-vous pour le 14e épisode.